Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Bonsoir, vous êtes sur Scilab et vous écoutez J'ai et craché sur vos ondes de 19h à 20h. Au programme de notre émission qui s'intéresse aux faits et aux objets de littérature, il sera question des légendes d'Emeria, une fiction audio pas piquée des hannetons, de questionnements moraux et éthiques avec Agathe, et enfin, on se quittera avec Marion qui nous parlera des frères Karamazov par Dostoïevski. Mais avant tout ça, si les uns sont déconfinés, nous on continue à faire de la radio depuis la maison. Ainsi, on poursuit notre petit rituel des chroniques des chroniqueuses et chroniqueurs confinés avec Fanny.
Ah, que salut les auditrices et auditeurs de Scilab. Ça fait depuis un bon moment que je ne vous ai pas parlé. La faute à ma petite bulle de confinement. Déso, pas déso. J'avais des petits pois à planter, des plantes sauvages à cueillir, bref, je devais vivre ma vie de vinaigrette, quoi. En bonne écolo bobo gadgeto que je suis. Mais j'ai pas chômé, je vous jure. J'ai lu, et pas qu'un peu. J'ai rassemblé 5 livres que j'ai lus dans l'ordre dans lequel je vais vous les présenter. Et honnêtement, ça représente pas mal les fluctuations de mes pensées de confiné. Pour ma première lecture, je me suis repenchée sur un livre que j'avais lu ado et qui parlait d'évasion. « La rivière à l'envers » de Jean-Claude Mourleva. Dans ce roman jeunesse, on découvre Tomek, jeune homme qui tient l'épicerie du petit village dans lequel il vit et qui, un jour, réalise qu'il s'ennuie et qu'il souhaiterait découvrir le monde. Mais pour cela, il va lui falloir un facteur déclenchant, Anna, qui rentre un soir d'été dans sa petite épicerie et va le bouleverser. Elle est à la recherche de l'eau de la rivière Gjar, celle qui empêche de mourir. C'est bien la seule chose qui n'est pas disponible dans l'épicerie de Tomek. Alors, elle repart. Tomek, quelques jours plus tard, part sur ses traces, également à la recherche de cette rivière mystérieuse. Il traversa, lors de son périple, des paysages formidables tels que la forêt de l'oubli, le village des parfumeurs ou bien l'île inexistante. De ce livre, je retire un doux parfum boisé et fleuri, qui aura eu le mérite de me faire retomber le temps d'une lecture en enfance. J'ai ensuite enchaîné sur une lecture surprenante, « L'ultime secret » de Bernard Werber. J'ai pris ce livre d'abord sans trop de conviction et suis tombée dedans à une vitesse folle. Dans le genre roman scientifique, celui-ci a tapé dans le mille de ma curiosité. Car sa thématique principale est le plaisir. Je vous vois venir, bande de petits coquins, parce que le plaisir, pas que le plaisir sexuel, mais bien toute chose qui stimule la partie de notre cerveau responsable de l'hormone du plaisir. Le topo de base est le suivant. Un champion d'échecs meurt de plaisir alors qu'il faisait l'amour, le soir même de sa victoire contre l'ordinateur tenant du titre. Sur ce, deux reporters scientifiques débarquent à Nice pour enquêter. Tellement de choses m'ont plu dans ce livre. Les questionnements autour de l'intelligence artificielle, l'exploration des motivations humaines, le décryptage de la philosophie épicurienne, et surtout, surtout, cet hôpital psychiatrique qui exploite les troubles de ses patients. Situé sur une île, il donne parfois au récit des airs de Shutter Island. J'ai trouvé l'intrigue complète et bien ficelée, contrairement au prochain livre que je vais vous présenter. Il n'est pas dans mes habitudes de parler à la radio de livres qui m'ont déplu, mais étant donné que je vous parle de mes lectures de confiné, je ne le passerai pas sous silence. Les 10 petites poupées de B.A. Paris. En soi, je n'ai pas détesté lire ce livre, mais quelque chose m'a agacé lors de la lecture. J'ai deviné trop rapidement la fin. Spoiler alerte, donc. Donc si vous êtes en train d'écouter et que vous voulez pas savoir la suite, eh ben faites une pause d'environ 2 minutes. Finn est un homme d'une quarantaine d'années qui vit dans un quartier tranquille avec sa compagne. 12 années plus tôt, son ancienne petite amie, Leila, a disparu. Des petites poupées russes qui semblent ramenées à cette fameuse Leila font leur apparition dans la vie de Finn et de sa compagne Hélène, qui n'est autre que la sœur de Leila, qu'il a rencontrée après sa disparition, bien sûr. Vous la voyez venir ? Finn n'a jamais oublié Leila, mais depuis il est tout de même heureux avec Hélène. Mais bon, on a quand même un gros indice dans le titre avec les petites poupées russes, qui est un symbole récurrent utilisé pour décrire les troubles de la personnalité, et notamment les personnalités multiples. Et oui, Hélène, en fait, c'est Leila, qui s'était cachée tout ce temps dans la peau et le caractère d'une autre. Enfin bon, Finn, wake up! Même avec une bonne teinture et une gestuelle totalement différente, tu reconnais pas la Zouz dont tu es follement amoureux? Enfin... En plus d'un scénario pas très original, j'ai trouvé l'écriture répétitive et un peu trop poussive. Mais mine de rien, si on en revient à mon histoire de rapport de lecture avec le confinement, eh bien cela correspondait tout à fait au moment où les gens commençaient à péter des plombs à être enfermés. Coïncidence ? Je ne pense pas. Après cette lecture, j'ai voulu me rassurer et me dire que je ne devenais pas zinzin. Alors je me suis mis dans un mood lecture introspection, avec le livre du voyage de Bernard Werber. Promis, je n'ai pas de sponsor Werber, j'ai juste tapé dans la collecte de mon grand frère. Coucou Jérémy. Un peu à la manière d'un petit prince ou d'un Jonathan Livingstone le goéland, Werber t'emmène dans ton toit intérieur, mais de manière beaucoup plus directe, parce que le narrateur ici, le livre, te parle directement et t'invite à découvrir et à matérialiser dans tes pensées ton petit havre de paix, ton symbole, parfois tes ennemis intérieurs ou bien ton mantra. Bref, c'est une lecture rapide et vraiment pas désagréable, qui a confirmé quelque chose d'important. Je suis zinzin, mais ça ne date pas d'hier, et j'adore ça. Et pour finir, je me suis dit, bon bah, c'est bien beau tout ça, on est dans le merdin avec cette histoire de Covid, mais c'est que le début des galères qui vont nous tomber sur le nez. Alors quoi ? Est-ce qu'on se plaint mais on fait rien ? J'ai besoin d'espoir, quoi. Et heureusement que je suis tombée sur le numéro 39 de la revue Socialterre, dont le titre m'a alpagué direct, comme on dit chez moi en pays brestois. Tout le pouvoir au local. Avec des dossiers appuyés d'exemples concrets du Rojava et d'ailleurs, analysés à travers le prisme de philosophes et des exemples d'actions concrètes également, je trouve ce numéro particulièrement intéressant. Petit plus pour un article qui part, en mon sens, de la base du problème, et si on sortait du gigantisme. Ce sera tout pour mes lectures de confiné. Allez, à ciao, bonsoir.
Merci Fanny pour ce petit tour d'horizon.
Ce soir, chères auditrices et chers auditeurs, je vous propose de découvrir les légendes d'Emeria, un conte musical produit par l'architecte des rêves, qui a vu le jour grâce à l'amitié entre deux rêveurs. Le premier rêveur a écrit des mots, créé l'univers, posé des sons. La deuxième rêveuse a critiqué, accompagné et illustré. À eux deux, ils ont donné vie à cette fiction audio que je vous propose de découvrir à travers leurs propres mots.
Je m'appelle Maxime, ça fait 7-8 ans que je fais de la musique assistée par ordinateur. Et à un moment, en fait, j'ai eu envie de me lancer dans la création d'un projet. J'avais arrêté le groupe dans lequel j'étais et puis j'ai dit à un pote « Et si on faisait un conte musical ?» Ça m'a un peu projeté dans l'écriture, dans la musique, dans un autre style que ce que je faisais avant. Le sound design aussi.
Bah moi du coup donc la fille d'à côté, je suis Anna Célestine de mon prénom. J'habite au fin fond de la campagne où je monte une résidence d'artistes autogérée qui s'appelle Chez Mamie et où on crée un réseau d'artistes précaires pour se débrouiller, pour avancer tous ensemble, mettre en commun les moyens de production, les outils, etc. Se nourrir, habiter dans un cadre de vie sain et ça nous permet de mieux créer. Donc voilà, et donc mon activité professionnelle c'est photographe et illustratrice.
Alors, les légendes d'Emeria, c'est une fiction audio médiévale fantastique, mais pas trop, politique, mais pas trop, d'aventure où, en fait, on est à la quête d'un objet qui permettrait de ramener la magie sur ce monde d'Emeria où la magie a disparu suite à un cataclysme il y a 200 ans. Et donc, du coup, bah, on suit un trio d'héroïnes qui part à la recherche de cet artefact pour ramener de la magie, permettre d'éviter une guerre ou en tout cas de sauver leur royaume de la guerre.
J'ai passé des années à me consacrer à l'histoire d'Emeria, à ses contes, à ses légendes. Longtemps, j'ai gardé pour moi tout ce que j'avais appris au fil de mes recherches, mais l'histoire se construit à partir des traces que nous laissons. Qu'aurais-je fait si des explorateurs n'avaient pas, avant moi, écrit sur la flotte insubmersible de Rougemer, sur la légendaire lame de paix, sur le compas de l'explorateur et surtout sur le monolithe ?
Avec Maxime, on s'est rencontrés dans un train il y a plusieurs années. Et comme deux meilleurs amis, on s'est parlé de nos projets dans la vie. Et c'est comme ça qu'on a monté l'Architecte des rêves, qui est du coup l'association qui produit les légendes d'Emeria. On a réalisé un premier projet il y a quelques années qui était l'architecte des rêves. Et suite à ce projet-là, Maxime avait encore envie de créer. Et comme c'est quelqu'un de très productif et de très organisé, il s'est lancé dans les légendes d'Emeria, qui est un projet assez titanesque.
Tout a commencé dans un petit village, proche d'Ilicia, la capitale du royaume d'Oria. Je venais de rentrer d'une chasse, la chasse d'un trésor. Le port était à seulement quelques heures de marche d'Ilicia. J'avais l'habitude de passer par ce village. Et ce jour-là, il n'y avait que des maisons brûlées, des cadavres et le silence.
Finalement, on s'est retrouvés à créer ensemble parce que on en parlait beaucoup. Et j'ai fait la petite main, je pense, on peut dire. Et comme je suis très critique et pas toujours très sympa, mais très directe, parce que c'est mon meilleur ami et que je me permets, je me suis retrouvée un peu à faire script doctor, c'est-à-dire relire ce qu'il écrivait, qui est toujours hyper bien, mais assez complexe et parfois un peu littéraire pour de l'oral.
Il y avait la garde noire de Pellegria aussi. Je pense qu'ils m'ont assommée. Je ne le savais pas encore, mais dans le même temps, à des heures de là, dans la capitale de cette même Pellegria, un discours allait mettre le feu aux poudres. Et c'est ainsi, dans le sang et les mots, qu'a commencé la plus grande des légendes d'Emeria.
Mon rapport à la fiction audio, ça a commencé au lycée, je pense à peu près... pas mal de gens de ma génération avec Reflet d'Acide, Le Donjon de Nullbuck du coup, et Adoprix Toxis, donc des trucs beaucoup plus tournés vers l'humour, qui est absolument pas du tout le truc vers lequel je tends. Puis plutôt très inspiré par tout ce qui est univers de jeux vidéo. À l'époque, je sortais de 3 gros jeux, Horizon Zero Dawn, et j'ai été très frappé à la richesse de l'univers qu'il y avait. Puis Uncharted 4, du coup, jeu d'aventure, on va dire, à la Tomb Raider. Donc. Et en fait, à la fin d'Uncharted 4, je me suis dit, c'est fou, tous les récits d'aventure, de quête au trésor, ou tout ce genre de choses-là, on tourne tout le temps, en fait, autour des mêmes artefacts, des mêmes civilisations. Et je me disais, j'aimerais bien une histoire d'aventure, en fait, mais j'en ai marre qu'on tourne toujours autour de ces thématiques. Du coup, je me suis dit, et si, en fait, on basculait ce genre d'histoire, mais dans un autre univers? Moi, la façon dont je le concevais, c'était au fur et à mesure, en fait, de ramener de la couleur dans le monde. Enfin, inconsciemment, je pense. Je me suis dit, on va garder cette idée-là, et donc cette idée du retour de la magie. Donc, on était sur un monde dépourvu de magie, et du coup, comment on la ramène? Et après, en fait, les échos de Horizon et Final Fantasy sont revenus. Je me suis dit, on pourrait effectivement avoir... J'avais Final Fantasy XV, où on a deux royaumes qui se foutent sur la gueule.
Vous savez pertinemment que le peuple d'Oria n'acceptera jamais d'être dirigé par un roi qui n'a pas été élu.
Ne vous inquiétez pas, Azriff. Pellegria n'a jamais songé à changer le roi d'Oria.
Permettez-moi d'en douter.
Oh, je vous le permets, mais je vous assure que votre peuple ne verra pas la différence.
Nous avons déjà vu ce que vous avez fait à notre capitale, nos proches, et nous ne vous le pardonnerons pas.
Mes condoléances. Si cela peut vous consoler, nous n'avions pas cet objectif.
Quand votre garde noire a rasé l'intégralité d'un village, elle ne comptait pas faire de victimes ?
Comment on en arrive là, en fait ? Et c'est là que je me suis dit, attends, mais du coup, les royaumes, faut leur créer un background. Donc du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec le royaume d'Oria, qui est totalement pacifiste. S'il est pacifiste et que dans sa loi, il n'a pas d'armes sur son territoire, donc du coup, personne, il n'y a pas de police, il n'y a pas de... Personne n'a d'armes sur ce truc-là, donc du coup, s'il se retrouve à faire une guerre, il n'a pas les... Même si on venait à lui donner des armes, il ne sait pas s'en servir, quoi. Il ne sait pas se battre, il n'est pas capable de porter une épée ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un royaume qui est pacifiste et en cas de guerre, il se fait laminer en fait directement. Et donc du coup, le fait d'avoir nos personnages qui appartiennent à ce royaume-là, la magie, on peut la considérer comme une arme. C'est une des thématiques qui est abordée justement dans l'histoire. Et donc du coup, donc après, on crée les personnages. Je voulais une héroïne. Alors principalement parce que c'est très important pour moi d'avoir des héroïnes dans les fictions, parce qu'il y en a pas assez.
Avec Max, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. On est très 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 proches. C'est quelqu'un qui me connaît vraiment très bien et des fois mieux que moi-même. Mine de rien, peut-être que je suis un peu importante pour lui, donc il a tendance à écrire des personnages où je suis un petit peu. Donc je me suis retrouvée à jouer le rôle d'Adria. Et peut-être c'est mégalo de ma part, mais je ressens toujours beaucoup de tendresse dans les personnages qu'il écrit et que je joue, parce que j'y retrouve un petit peu l'amitié qu'on a. Et c'est très agréable parce que on parle beaucoup d'amour dans les fictions, mais parler d'amitié, c'est très 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 important. Et mon amitié pour Max, avec Max, c'est une des choses les plus importantes de ma vie. Et je pense que le rôle d'Adria, encore une fois, c'est ça. Il y a beaucoup d'histoires d'amitié dans les légendes. C'est beaucoup d'histoires d'affection, de qu'est-ce qu'on fait pour les autres, comment on le fait, mais aussi les tensions qui naissent de ça. Enfin, avec Max, on s'est beaucoup engueulé dans nos vies, on n'a pas fini de s'engueuler, mais ce n'est pas un problème, parce que ça fait partie aussi des amitiés. Et le rôle d'Adria, il est beaucoup là-dessus. C'est quelqu'un de solitaire, mais qui, en fait, se retrouve à vivre avec deux autres femmes des aventures qui sont complexes.
La prochaine fois que tu as une idée pareille, réfléchis aux conséquences avant. 2 jours qu'on croupit ici, et ta superbe amie Taldrine, elle n'a toujours pas pointé le bout de son nez. Elle a toute ta confiance, j'aimerais bien savoir pourquoi.
Je suis désolée, je te l'ai déjà dit. Mais au moins, on est à l'intérieur. Et oui, j'ai confiance en elle. C'est pas seulement la négociatrice du réseau Barst. On a souvent chassé ensemble, et quand on chasse, on a plutôt intérêt à être sûr de notre double. Même s'il n'y en a pas eu que des réussites, je serais pas là si je pouvais pas lui faire confiance.
J'espère qu'elle réagissait un peu plus vite à l'époque.
Ne plaisante pas, elle a forcément une raison et j'espère que c'est pas grave.
Le rôle des femmes dans les fictions de Max, qui est les femmes sont des personnages, les femmes ne sont pas des femmes. Les femmes sont un personnage et il y en a plein parce qu'il a eu plein de femmes importantes dans sa vie qu'il estime et qu'il ne considère pas comme particulièrement femmes. Mais il sait aussi la différence qu'il peut y avoir entre les femmes et les hommes dans la société et donc ce qui peut arriver à ces personnages femmes sont aussi des choses qui leur arrivent parce que femmes. Mais ce ne sont pas des ressorts scénaristiques, ce ne sont pas des prétextes. Et moi, je trouve ça génial de pouvoir bosser sur des personnages, sur des projets où il y a des personnages comme ça, qui me ressemblent en fait, qui ressemblent à ma vie. Et c'est aussi des choses que j'ai envie de transmettre à d'autres gens. Donc il y a ce rapport-là, notamment aussi parler de l'amitié entre femmes, ce qui n'est pas très courant dans les fictions, encore moins dans le fantastique.
Taldrine !
Adria ! Je vais finir par croire que tu n'arriveras jamais à mener à bien une de tes recherches sans que je te vienne en aide.
Aldrin, t'es pas obligée d'en rajouter une couche. Tu crois pas que c'est suffisant d'avoir passé 2 jours allongés sur de la paille dégueulasse derrière des barreaux?
Non. Et puis bon, c'est toujours sympa de te rappeler que tu m'en dois une pour le compas de l'explorateur. Ah, et pour la lame de paix aussi. Et même pour Rougemer. Comment ça s'est passé d'ailleurs? J'attends ma part.
Ah, oui, je t'en dois aussi une pour nous avoir sortis de prison. Je sais.
Et Rougemer alors?
Non mais c'est pas vraiment le moment là. Vous ne croyez pas qu'on pourra en reparler quand on sera dehors?
Non, j'ai conclu.
On a Adria, Lyra et Taldrin qui sont à la recherche du monolithe, mais on n'a pas que cette histoire-là, parce que si on avait que ça, derrière, on n'a pas forcément l'impression que le statu quo évolue. Du coup, j'avais envie qu'on ait les dialogues avec les rois qui reviennent pour donner de l'attention un peu à tout ça. Je voulais aussi qu'on ait nos deux rois qui se tirent la bourre et apporter aussi une réflexion sur ces hommes de pouvoir qui sont à la tête de royaume et qui décident du destin de certaines personnes qui n'ont rien demandé.
Que diriez-vous de renouveler complètement votre pathétique assemblée populaire?
Allez en enfer!
Oh, mais nous y sommes.
Je n'ai pas le temps pour votre humour de despote.
Vous faites fausse route. C'est bien une remarque de démocrate. Le despotisme a ses avantages. Il y a des impératifs, des urgences. Et quand j'entame une politique, quelle qu'elle soit, je n'ai pas à m'encombrer d'inutiles débats au sein d'une assemblée qui ne sera jamais d'accord.
La dernière partie qui, moi, me plaît énormément dans ce projet, c'est toute la dimension politique du projet, qui sont d'autant plus inattendues, enfin pas inattendues, mais peu courantes. Dans le fantastique, il y a souvent des histoires de guerre et tout ça, mais c'est rarement avec un regard critique, c'est rarement écrit avec une réflexion politique derrière. Souvent, c'est des prétextes. C'était d'autant plus inattendu que Max et moi avons eu des querelles pendant des années au sujet de la politique dans les fictions et du fait qu'il devrait ou pas y en avoir. Finalement, maintenant, Max écrit des fictions où il y en a. Et j'aime beaucoup ces réflexions politiques. En fait, la façon dont il emmène les gens, enfin, ses personnages et du coup, peut-être les gens qui écoutent, à se questionner sur des choses assez anodines, mais aussi des choses très, très importantes. Le peuple d'Oria, je trouve ça déjà très intéressant, comment dire, sa vision du pacifisme, qui est un pacifisme total, pur, mais qui finalement n'est pas très applicable. Et donc, il y a des débats autour de ça. Est-ce que vraiment le pacifisme, c'est ne rien faire, ne jamais se battre? Est-ce qu'on doit se battre pour les autres? Est-ce qu'on doit se battre avec les autres? Est-ce qu'on sauve des gens malgré eux ou est-ce qu'on les aide à se sauver? Tout ça, des réflexions sur le pouvoir aussi. Et sur la violence. Et moi, c'est des questionnements qui sont très présents dans ma vie, donc je trouvais ça très intéressant de les emmener en fiction dans des univers qui sont différents, avec des enjeux différents.
quand j'écris quelque chose de dense, et souvent même, parce que inspiré du jeu vidéo aussi, j'ai une écriture plutôt visuelle. Là, à un moment, on se dit, tiens, ça pourrait être bien d'avoir des illustrations, mais en fait, on n'en a pas. Et puis, arrive le 17 mars 2020, et on se retrouve tous confinés. Ça peut être bien de sortir une fiction à ce moment-là. Et du coup, je dis à Anna, bah tiens, et si on sortait 2 épisodes par semaine ?
Je lui ai dit, c'est pas possible qu'on le sorte sans illustration, parce que je me suis rendu compte que le conte était très complexe. Donc, je me suis dit, je vais réaliser 2 à 3 illustrations par épisode pour guider un petit peu les auditeurs.
Elle me rappelle et elle me dit « Ouais, j'ai eu une autre idée et tout. Et si on faisait de la vidéo et que du coup, bah, tout était dans la diégèse des légendes ?»
Je me suis créé un petit bout de décor qui me servait déjà pour des photos dans un coin du chantier de chez mamie. Et je me suis raconté toute seule l'histoire que peut-être ce qu'on voyait à l'image, c'était l'héroïne Adria qui plus tard raconterait son histoire avec un carnet de voyage. Et chaque épisode, ce sont les mains d'Adria qui tournent les pages du carnet de voyage au fur et à mesure que l'histoire est racontée. Les choses sont jouées.
Donc, c'est totalement son idée et c'est une trop bonne idée, en fait. Même si ça rajoute du travail, parce que on est des spécialistes pour ça, de se dire on va faire un truc simple, puis finalement, pas du tout.
Donc, le cadre, c'est un bureau avec des vieilles pages que je teinte au café pour qu'elles aient dont je refais les bords pour qu'elles aient un petit style parchemin. J'éclaire ça à la bougie. J'ai tendu des draps comme j'ai pu sur les fenêtres de la pièce où je tourne, qui est une vieille pièce un peu poussiéreuse façon grenier, donc c'est bien, ça rajoute à la crédibilité du décor. J'ai posé des vieux trucs, des vieux couteaux, des vieilles jumelles de théâtre, des livres, des bouts de fourrure, et je tourne les pages au fur et à mesure de ces dessins qui sont faits au crayon gras noir et à l'encre. Et parfois, quand j'ai la flemme, ou quand j'ai pas le temps, et qu'un nouveau personnage arrive dans la scène, plutôt que de redessiner la scène, j'incruste des petits personnages découpés de papier pour les rajouter à la scène.
Elle fait un travail qui est oufissime et dans le temps imparti, alors même si au niveau des deadlines, parfois on est un peu short. Respect quoi, encore une fois, clap clap clap.
Je vous invite à découvrir la qualité de ce travail par vous-même en vous rendant sur la chaîne YouTube de l'Architecte des Rêves. Vous pourrez ainsi goûter à la qualité du montage et du sound design, du jeu des comédiens et comédiennes qui ont prêté leur voix à ces personnages, et à tout le reste. Croyez-moi, il y avait encore beaucoup à dire sur ce casting, les conditions d'enregistrement et anecdotes de tournage, le travail de mise en voix et les processus d'écriture, de réécriture, mais le temps nous est compté. Ainsi, nous allons en rester là pour cette émission sur les légendes d'Emeria et ce projet formidable. Mais pour celles et ceux qui souhaitent pousser un peu plus loin, on se retrouve en description du podcast sur le site de scilab.fr avec la suite de ses entretiens avec Maxime et Anna. En tout cas, j'espère vous avoir donné soif d'aventures et de légendes. Pour se quitter tout en douceur, on s'écoute The Mystic Master Dies, le thème musical composé par Trevor Jones pour le film Dark Crystal. C'était The Mystic Master Dies de Trevor Jones, composé pour le film The Dark Crystal. J'irai cracher sur vos ondes poursuit son émission avec la chronique d'Agathe, qui se poursuivra par un petit échange que nous avons réussi à organiser la veille même dans le jardin de Marion.
Pendant le confinement, j'en ai profité pour ranger ma bibliothèque, et j'ai retrouvé, coincé entre 2 Timothée de Fombelle, un livre de Jérôme Noirez, Desolation Road. C'est un livre que j'avais lu en 3e à l'occasion du prix Ado, prix dont la remise se déroulait au Triangle, à Rennes. Je me suis donc souvenu de cette histoire, que j'avais appréciée, et qui nous emmenait dans les couloirs de la mort en Californie pour rencontrer June, une jeune fille de 17 ans. Que fait-elle donc dans ce couloir sombre et morbide ? Qu'a-t-elle fait ? C'est ce que le journaliste Gail Hudson tente de découvrir en interviewant la jeune fille. C'est un récit d'aventure palpitante et de désespoir que livre June. Son amour de toujours et charmant voisin, David O'Reilly, finit par tuer accidentellement son père après une énième et violente dispute Et tous deux partent alors sur la Desolation Road, dans une fuite en avant. Alors, je ne sais pas si le résumé vous a donné envie, mais personnellement, la petite Agathe de 15 ans avait été particulièrement hypée par ce livre, au point de vouloir apprendre la sténographie, une écriture journalistique que le journaliste utilise pour prendre en note les propos de June. J'étais donc enthousiaste à l'idée de vous le présenter ce soir dans une chronique. J'avais même la musique parfaite pour aller avec.
Bang, bang, my baby shot me down.
Mais parce qu'il y a un mais, c'était sans compter Étienne qui m'a lancé. Tu sais que Jérôme Noirez, il est en prison pour pédopornographie ? Ah bah non, je savais pas. Avec cette information, le problème s'est posé. Comment parler d'un livre génial écrit par un mec un peu moins génial ? Est-ce moralement acceptable de louer l'œuvre d'un homme ayant enfreint la loi ? C'est l'éternel débat de l'art et de la morale dans l'art, le serpent qui se mord la queue et les polémiques autour de Polanski et Gabriel Matzneff. Un terrain glissant donc, depuis quelques années. Étais-je vraiment sûre de vouloir m'engager là-dedans ? Eh ben non, pas vraiment. Mais en même temps, il y a beaucoup à dire sur le sujet, et je trouvais cela dommage de ne pas soulever au moins la réflexion. J'ai donc ouvert mon ordinateur et fait quelques recherches. J'ai bien sûr commencé par me renseigner sur Jérôme Noirez lui-même. Et en effet, Étienne ne s'était pas trompé. Jérôme Noirez avait été interpellé en 2013, puis jugé et condamné en 2016 à 30 mois de prison, dont 15 fermes pour détention, captation et diffusion d'images pédopornographiques. Tiens, tiens, un auteur pédophile, ce ne serait pas le premier. En fait, quand on regarde ces dernières années et on a l'impression que beaucoup d'artistes ont un petit côté déviant, pas forcément autour des enfants, hein, mais nous pouvons élargir aux abus sexuels et au mouvement MeToo, on remarque une libération de la parole avec des romans ou des témoignages qui osent enfin dire ce qu'il s'est passé. En littérature, avec le consentement de Vanessa Springora, au cinéma, avec toute l'affaire Polanski et le témoignage d'Adèle Haenel, ou la dénonciation d'Eva Ionesco qui accuse sa mère de l'avoir fait poser pour des photographies érotiques alors qu'elle était enfant. Bref, les exemples ne manquent pas. Et on pourrait se demander pourquoi il y a tant dans le monde de l'art et de la littérature de problèmes de ce genre. Je pense qu'il est alors intéressant de se pencher sur le statut même de l'écrivain. Il faut savoir que le terme écrivain est apparu au XIIe siècle, mais il désigne alors simplement le scribe qui recopie les manuscrits. Plus tard, il va désigner celui qui écrit ses propres histoires jusqu'à désigner celui qui produit des œuvres, c'est-à-dire des écrits de qualité. En gros, l'auteur écrit et l'écrivain écrit bien. Mais c'est au XIXe siècle que le terme commence à s'accompagner d'un mythe et que les choses deviennent intéressantes. On assiste dans un premier temps au sacre de l'écrivain, avec l'émergence d'un public de masse et la figure de l'auteur qui se détache des pouvoirs politiques et religieux en place et qui devient indépendant. L'écrivain va petit à petit devenir une star et donc se situer sur un piédestal. Puis, avec les romantiques, l'écrivain va vraiment devenir un être à part, aux facultés hors du commun. Il possède le génie créatif, mais il souffre également, car en étant différent des autres, il est aussi incompris. On en arrive donc à l'image de l'artiste vivant à l'écart malheureux. Encore aujourd'hui, c'est une image forte qui parle, car comme le dit le rappeur LujPK,
tant qu'il y aura du malheur, il y aura de l'inspiration.
Bref, c'est encore d'actualité aujourd'hui. L'écrivain serait donc, par définition, un être torturé et pas très stable. De là, il n'y a qu'un pas vers la pédophilie et autres penchants pervers. Alors attention, je ne dis pas que pour être écrivain, il faut être pédophile, ni que si tu es pédophile, tu peux te mettre à écrire ta relation avec une adolescente de 14 ans pour gagner l'impunité sans que cela ne choque personne, sauf les écrivains canadiens apparemment. Bon, vous l'aurez compris, si le mythe de l'écrivain facilite et entretient en effet la posture sociale d'un être reclus et effacé, voire un peu dépressif et torturé, il ne justifie pas l'impunité d'un Gabriel Matzneff. Alors comment expliquer ? Là encore, on peut le faire avec de l'histoire littéraire. Et encore une fois, il faut remonter au XIXe siècle, et plus précisément en 1856. C'est l'année où Flaubert publie Madame Bovary, ce livre qui a choqué la morale bourgeoise et qui lui a valu un procès. On l'accusait d'outrage à la morale publique et à la religion. La même année, Baudelaire passe lui aussi sur les bancs de l'accusé. Ces deux événements participent à la prise de conscience dans le champ littéraire qu'une œuvre d'art ne peut pas être jugée dans le champ moral. Donc, au XXe siècle, les écrivains se battent pour faire sortir la littérature du champ de la morale. Des œuvres comme Lolita naissent, oui, mais la différence entre Lolita et les carnets noirs ou les moins de 16 ans, c'est la fiction. Nabokov n'est pas pédophile et il fait parler un personnage, Humbert Humbert. Tandis que pour Gabriel Matzneff, bon, c'est clair, c'est autobiographique et au vu et au su de tous. Et ça gagne des prix littéraires. Voilà le genre de paradoxe que crée cette volonté de rendre la littérature amorale. Oui, on peut tout écrire, peut-être, mais on ne peut pas tout faire. Et c'est là où le bât blesse, puisque jusqu'à décembre dernier, Gabriel Matzneff, sous couvert de littérature, n'avait pas été inquiété pour ses agissements. Aujourd'hui, avec la publication du consentement de Vanessa Springora, la condamnation de Jérôme Noirez et le retrait de la vente de ses livres par l'éditeur Gulfstream, la littérature tente de se réinsérer dans le champ de la morale. C'est ce que résume le tweet de Bernard Pivot disant « Dans les années 70 et 80, la littérature passait avant la morale. Aujourd'hui, la morale passe avant la littérature. Moralement, c'est un progrès. Nous sommes plus ou moins les produits intellectuels et moraux d'un pays, et surtout d'une époque. » Alors ok, c'est un peu léger comme argumentation et défense. N'empêche que oui, dans les années 70, la pédophilie n'était pas aussi répréhensible que maintenant. De nombreux intellectuels revendiquaient les droits à l'éducation sexuelle des enfants sur le modèle de la pédérastie grecque, justifiant « si les Grecs le faisaient alors que c'est ok ». Voilà ce qui explique en partie l'absence de réaction dans le public d'apostrophe devant Gabriel Matzneff. Pour aller plus loin dans cette thématique, je vous conseille l'ouvrage de Pierre Verdarragé, L'enfant interdit, comment la pédophilie est devenue scandaleuse. Voilà, c'était une chronique un peu différente de d'habitude, qui touche plus à la théorie littéraire qu'à l'analyse de livres. Si ça vous a plu, que vous en voulez d'autres dans ce style, alors n'hésitez pas à le dire sur la page Facebook de l'émission. C'est les initiales, donc JCSVO. Quant à moi, je vous laisse avec Bang Bang, la version douce et envoûtante de Nancy Sinatra. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, "Remember when we used to play?" Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down.
Et bah super chronique.
Ouais, ah, c'est vrai que c'est une question que je me suis souvent posée. Pas forcément par rapport à la pédophilie, mais quand tu vois Céline par exemple avec son antisémitisme.
Ouais, ouais.
Le type n'est pas sympathique, mais il n'empêche que j'ai apprécié la lecture de ses romans quoi. Ouais.
Mais c'est d'ailleurs une scène que t'as dans Lawrence Anyways de Xavier Dolan, parce que le personnage principal est prof de lettres, ouais. Et il explique que du coup Céline, qui était très intensimiste et qui était un peu collabo sur les bords, l'histoire lui a plutôt bien passé l'éponge, mais il avait des écrivains contemporains qui étaient tout aussi collabo et antisémites que lui, qui eux avaient un style beaucoup plus pauvre, et eux on les a complètement oubliés, rayés, ils ont purgé des peines, etc.
Ouais.
Il y a quand même une question qui se pose de l'impunité de ces personnes-là et de à quel point le style peut te pardonner, parce qu'autant je pense qu'on peut essayer de continuer à les lire, enfin c'est pas que pour les apprécier qu'il faut continuer à les lire quoi, c'est aussi parce que ça existait, il faut en être conscient, il faut pouvoir les analyser quoi, mais il est passé complètement à côté de tout son système judiciaire, sa popularité a pas été touchée, etc. C'est plus ces questions-là moi qui me posent problème sur le plan moral en fait.
Que ça reste pas associé en négatif aussi, et qu'on s'en rappelle quoi.
Est-ce que c'est le succès qui fait cette impunité là? Est-ce que c'est, enfin, j'imagine que des auteurs moins connus, moins reconnus par le milieu, si jamais ils pondent quelque chose comme ça de si révoltant, et ben ils sont plus facilement montrés du doigt que des personnes qui sont déjà reconnues.
Ce qui s'est passé un petit peu là dans ma chronique, je compare vite fait Jérôme Noirez et Gabriel Matzneff.
Oui.
On voit bien que ce sont deux profils différents. Jérôme Noirez, c'est plus un écrivain de littérature jeunesse, voilà, qui est pas très très connu, alors que Gabriel Matzneff, bah, quand même, voilà, on connaît le personnage. Jérôme Noirez, bon, certes, c'était en 2016, donc c'est aussi un autre temps, autre époque, mais il a été condamné, alors que Gabriel Matzneff court toujours.
Mais c'est vrai qu'au niveau du coup de ces questions-là de pédopornographie, il y a vraiment la question de la dissociation de l'auteur, mais à tous les... Par exemple, je pensais à Hergé, qui a quand même pondu des trucs...
Enfin, là, c'est pas séparé de l'œuvre...
Là, c'est dans l'œuvre.
Ouais, là, c'est dans l'œuvre.
Là, pour le coup, tu peux...
Ouais. Oui, mais pareil, au final, il a été remis en question, mais il a continué quand même à avoir malgré tout du succès. Il a un musée, il a... Fin...
Mais encore, il n'y a pas longtemps, il y avait une personne, je crois que c'était l'an dernier, une personne qui faisait une chronique dans J'ai craché sur vos ondes, sur une exposition qui avait lieu sur Hergé, et qui avait genre, il y avait un petit panneau pour dire, alors oui, effectivement, les c'est mecs noirs au Congo, c'est un peu tendu, mais vous comprenez, c'est son époque, et puis basta quoi.
Ouais, il y a une forme d'excuse aussi,
c'est
souvent,
ça.
C'est
le contexte.
C'est le contexte, c'est parce que le contexte il change qu'on va se mettre à les condamner plus facilement, mais ça n'excuse pas et ça légitime pas.
Non, puis je suis sûre que si tu fouilles un peu, à leur époque, dans leur contexte, il y avait déjà des gens pour le critiquer, c'est juste qu'ils étaient moins en vogue.
Ouais. Moins entendu, sûrement quoi. J'ai pas lu beaucoup de Tintin, j'ai lu pour la première fois Tintin au Congo là pendant le confinement. Et j'étais choquée à chaque page. Et c'est vrai qu'on pointe du doigt vraiment cet ouvrage-là, alors qu'il y en a pas mal.
Ouais, c'est vraiment toute son œuvre qui est craignos.
Mais c'est un peu pareil que Bastien Vivès, qui fait quand même des fois des contenus vraiment limites, et on a pointé une de ses BD, alors qu'il y en a quand même pas mal qui sont pointés du doigt aussi. Après, je sais pas à condamner, mais genre juste à se dire en mode à y réfléchir quoi.
C'est lesquels du coup?
C'était
je sais pas si je connais.
Comment c'est cette BD?
Bah, la dernière qui a fait choquer tout le monde, je sais plus le titre, mais en gros...
C'est avec un énorme pénis, un enfant avec un énorme pénis.
Il y a juste une scène de viol dedans entre une femme adulte et lui, enfin plein de trucs qui craignent comme ça. Et enfin le truc c'est que Bastien Vivès, on commence à voir que c'est un des sujets qui le travaillent, qui prennent de plus en plus place dans son œuvre.
Ouais.
Et puis quand tu regardes avec sa personne privée, les discours qu'il peut tenir sur la place publique, ça craint du cul aussi.
Je pense qu'il faut juger les deux, quoi. Il faut juger et la personne et l'œuvre, quoi. Genre, je sais que il y a quelques années, ça m'avait intéressé de lire Mein Kampf, juste pour me dire bon bah qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin, quoi. Comment il est fait, et bon bah c'est clairement pas une œuvre littéraire. Je pense pas qu'on puisse l'appeler comme ça, mais c'est quand même. C'est un livre, quoi. C'est de l'écrit, et donc forcément il y a des choses. Ça a été écrit avant que Hitler mette en place son œuvre.
Si on peut appeler ça comme ça.
Ouais.
Et du coup, ça reste intéressant, mais du coup, rien ne nous empêche de juger les deux à la fois, quoi.
Mais ouais, et du coup, tu te poses. Enfin, je me suis aussi super souvent posé cette question-là. Est-ce que tu lis? Est-ce que tu ne lis pas? Est-ce que en lisant ou en regardant un film, machin, tu n'encourages pas ça? Par exemple, en allant dans les salles de cinéma, donner ton argent à ce film-là.
Bah voilà, justement, c'est que j'ai dit la phrase, c'est donner ton argent. Moi, je sais que Polanski, je vais que pirater si je tiens à voir un truc.
Ouais,
je
ne
vais plus donner d'argent. Ouais. Pour le coup, ça va aussi pénaliser ses équipes. Ouais. Mais au bout d'un moment, arrêtez de bosser avec ce mec, quoi.
Le cinéma, c'est un peu plus... Enfin, quoique, non, parce que les livres, il y a aussi l'équipe d'édition, en fait. À chaque fois, c'est toute une chaîne pour un seul homme. Donc, c'est ça aussi, c'est compliqué.
Oui, pour toi, c'est pareil. On condamne le travail des éditeurs, des représentants et des libraires derrière.
Ouais, mais à un moment donné, il faut que tu saches avec qui tu veux bosser et avec qui tu veux être associé, quoi.
Tout responsable.
Si ces gens sont aussi impunis, c'est parce qu'ils avaient des gens pour les soutenir, pour la réalisation de leur travail, et des gens qui ont accepté de les publier, de les distribuer.
Oui, mais parce qu'après, il y a aussi l'inverse. Par exemple, Gulfstream qui a retiré de la vente les livres de Jérôme Noirez. Parce que bah, forcément, au moment où l'éditeur a dû accepter la publication, il ne devait pas être au courant.
Il y a deux choses différentes.
Et l'affaire a éclaté après. Donc,
C'est plus une exception. Plus une exception. J'imagine que certains éditeurs sont aussi bien contents de publier des auteurs... entre guillemets, à scandale, ou alors qui ont des polémiques parce que les gens les lisent, quoi, malgré tout.
Vous vous rappelez de ce mec qui fait des BD hyper facho
sur Internet?
Ouais. Son nom m'échappe.
C'est
Marceau? Oui, c'est ça, Marceau. Marceau, la maison d'édition qui le soutient, elle le soutient bien, quoi.
Mais c'est des prises de position après.
Bah, parce qu'il y a des maisons d'édition qui peuvent être facho aussi. C'est pas parce que t'es une maison d'édition.
Après, quand je disais accepter de publier ces gens-là, tu vois. Je pensais par exemple à Bastien Vivès, je pense à tous les connards qui foutent des mains au cul dans le Mercure au festival d'Angoulême.
Ouais.
Donc c'est clairement, il y a aussi une part de responsabilité dans les collègues et dans les maisons d'édition de arrêter. Et puis on parle des auteurs, mais il y a aussi des gens derrière les coulisses qui sont tout aussi craignos. Enfin,
oui. Ouais, l'homme et l'œuvre.
Ouais.
Mais ouais, c'est une question. Je pense que ça revient aussi à la sensibilité de chacun, en fait, de savoir si on va regarder le film ou lire le livre, si.
Ouais, je pense qu'il faut pas hésiter à la fois lier les deux, c'est-à-dire être conscient de qui est l'homme.
Oui.
Et en même temps savoir du coup approcher une œuvre, parce que il y a aussi ce truc dans la censure, je trouve, de supposer que les gens n'ont pas de sens critique.
Oui.
Mmh. Mmh.
Et c'est un peu embêtant aussi, parce que c'est pas parce que tu lis Mein Kampf que tu vas devenir nazi.
Oui, c'est sûr. Mais c'est juste de savoir, est-ce que t'as envie de lire ce livre parce que, à la base, c'est un livre qui t'aurait plu ou parlé, ou est-ce que t'as envie de lire parce que les polémiques qu'il y a autour de cet homme ou cette femme ont attisé ta curiosité, quoi.
Ou cette femme, est-ce que vraiment ou cette femme?
Ben, dans... pourquoi pas?
C'est vrai que là, on parle que d'hommes, mais je pense que si on creuse...
D'un point de vue, on va dire, représentation statistique, mais
oui,
clairement.
De toute façon, là, t'as une intersection un peu compliquée, parce que des femmes qui écrivent, plus des femmes pédophiles, je pense, là, t'es sur un champ beaucoup trop spécifique.
Oui, ouais, c'est vrai, sûrement.
Peut-être on peut innover, on peut être les premières.
On peut chercher,
okay,
on va fouiller.
Ça, on peut devenir nous-mêmes des pionnières.
Oh bah, c'est un peu évité, ça nous arrangerait.
Des neveux, des nièces.
Vas-y, shut up. J'en ai tellement en plus, ça me met très mal à l'aise.
Voilà.
Bon, nous n'innoverons pas.
Non mais ça pose la question de la culpabilité et de la morale, et ouais, ça tombe bien, parce que moi, ma chronique, elle parle de ça. Vu que j'ai chroniqué les frères Karamazov et que Dostoïevski, qui est écrit par Dostoïevski, donc Dostoïevski était assez obsédé par l'idée de culpabilité, etc.
Bon, ah, c'est bien, ça fait une bonne transition.
Voilà.
Bah écoutez, après cette discussion, on enchaîne avec la chronique de Marion.
Bonjour auditeuriste déconfiné, j'espère que tu vas bien et que tu es motivé pour entendre parler d'un de ces fameux classiques qu'on n'a jamais le temps de lire, mais que quand même... On connaît de noms, mais bon, la vie est courte, YOLO. Et aujourd'hui, je vais te parler des frères...
Karamazov. Aucun lien, je suis fils unique.
Ah.
Non, parce que Karamazov, les frères, aucun lien, fils unique.
Ah d'accord, oui, bien sûr. oui, c'est drôle.
Alors personnellement, pour moi, les frères Karamazov, ça a toujours un peu fait partie de ces grands romans qui font peur, trop de pression, je lirai ça plus tard... Et c'est pas qu'une question de nombre de pages, hein. Bon oui, c'est sûr, 1000 pages, ça peut être un peu moins engageant que 150 pages, enfin encore, ça dépend pour qui. Mais là, c'était plus une forme de respect et de non-confiance en moi qui me retenait. Et je suis vraiment contente d'avoir sauté le pas, parce que ça vaut vraiment le coup d'insister. Et alors quand je dis insister, c'est insister pendant 400 pages, hein. Genre vraiment, tu insistes. Parce que... Bah, je vais dire quelque chose de très banal, mais c'est des centaines de pages qu'il faut se farcir bon gré mal gré, mais c'est la condition sine qua non pour profiter de la manière dont par la suite tous les fils se rejoignent et des choses qui sont sans rapport les unes avec les autres, qui vont prendre un sens nouveau par la suite, souvent parce qu'on les voit avec le point de vue d'un autre personnage, mais voilà, ça prend du temps, mais vraiment ça vaut le détour. Surtout que si on écoute Wikipédia, je cite... Le roman explore des thèmes philosophiques et existentiels tels que Dieu, le libre arbitre ou la moralité. Il s'agit d'un drame spirituel où s'affrontent différentes visions morales concernant la foi, le doute, la raison et la Russie moderne. De gros sujets donc, hein, mais en même temps c'est un peu son dada à Dostoïevski, les trucs comme ça qui prennent de la place dans ta tête... truc existentiel, quoi. Et alors, je le dis, histoire de le dire, il y a eu une adaptation cinématographique en 1958. J'ai regardé la bande-annonce, je vous le dis tout de suite, ça a pas l'air folichon, donc bon, je crois que là, vous pourrez pas vous farcir le film à la place du livre. Oh non, mais faites pas genre, hein, je vous connais comme je me connais, on l'a tous fait. Non, vraiment, faudra bien que tu le lises un jour, ce livre. Et le pire, c'est que je peux même pas te vendre le truc à base d'un synopsis un peu piquant, tu vois, parce que si j'essayais de te résumer l'histoire des frères Karamazov, je pense que t'aurais plus l'impression d'écouter un résumé de télépoche d'une de ces séries juridico-policières américaines qui peuplent les après-midi de tes grands-parents. Et bon, je suis sympa, je vais quand même te donner un petit aperçu de l'intérieur du bouquin. Les frères Karamazov, déjà, c'est un titre assez pertinent, hein, parce que ça parle bien de frères. Alors, ils sont trois, enfin trois et demi, parce qu'il y en a un qui est, il y en a trois qui sont légitimes, il y en a un qui est bâtard, qui est issu du viol de la folle slash simple d'esprit slash handicapée du village. Donc frère, donc issu d'un père qui n'a pas vraiment la fibre paternelle, ni la fibre de quoi que ce soit en fait, hein, CF, le viol susmentionné, bonne ambiance, tout ça, tout ça. Et donc ce père, Fyodor Karamazov, est assassiné au cours du roman. Donc c'est pas une spoiler alert, on sait presque dès le début du roman qu'il va l'être, mais on ne sait pas par qui. Et alors, plutôt que de faire dans l'évidence ou dans l'Agatha Christie, dans le genre oulala, mais qui sait donc qui a fait le coup, le roman va plutôt choisir d'alterner les points de vue, notamment entre les trois fils légitimes. Et plutôt que d'en désigner un coupable, ça va nous pousser à considérer plutôt la part de culpabilité de chacun des fils Karamazov. Même si, bon, oui, c'est vrai, il n'y en a qu'un seul d'entre eux qui a fini par défoncer le crâne de son père pour lui voler 3000 roubles. Donc tous coupables et tous pécheurs, au final, parce que c'est ça aussi, c'est que les frères Karamazov, c'est le dernier roman de Dostoïevski. Et la question morale, elle est vraiment très présente. Il faut savoir que Dostoïevski, il a été jusqu'au bout du bout de l'athéisme, jusqu'au fond du trou, jusqu'à redevenir croyant. Belle perf, quand même. Et dans le roman, on trouve tous ces différents discours liés à la foi, au doute, au scepticisme, mais plus profondément, c'est des discours qui sont liés à l'espoir qu'on peut avoir ou non en la nature humaine. Moi, par exemple, quand j'étais petite, j'avais foi en la nature humaine, et après, bah, plus du tout. Et puis ensuite un peu refoi, et juste un peu. Après, désespoir total, et encore après... Ah merde, je suis encore en train de vous raconter ma vie. Je vais plutôt vous laisser écouter celle du Starets Zosim. C'est un religieux qui est localement presque considéré comme un saint, dont Dostoïevski nous fait la biographie à un moment du roman. Et le passage que vous allez entendre correspond à la phase de conversion du personnage.
Le paradis, reprit-il, est caché au fond de chacun de nous. En ce moment, je le recèle en moi et, si je veux, il se réalisera demain pour toute ma vie. Il parlait avec attendrissement, en me regardant d'un air mystérieux, comme s'il m'interrogeait. Quant à la culpabilité de chacun pour tous et pour tout, en plus de ses péchés, vos considérations à ce sujet sont parfaitement justes, et il est étonnant que vous n'ayez plus embrassé cette idée avec une telle ampleur. Lorsque les hommes la comprendront, ce sera certainement pour eux l'avènement du royaume des cieux, non en rêve, mais en réalité. Mais quand cela arrivera-t-il ? M'écriai-je avec douleur. Peut-être n'est-ce qu'un rêve ? Comment ? Vous ne croyez pas vous-même à ce que vous prêchez ? Sachez que ce rêve, comme vous dites, se réalisera sûrement, mais pas maintenant, car tout est régi par des lois. C'est un phénomène moral, psychologique. Pour rénover le monde, il faut que les hommes eux-mêmes changent de voie. Tant que chacun ne sera pas vraiment le frère de son prochain, il n'y aura pas de fraternité. Jamais les hommes ne sauront, au nom de la science ou de l'intérêt, répartir paisiblement entre eux la propriété et les droits. Personne ne s'estimera satisfait, et tous murmureront, s'envieront, s'extermineront les uns les autres. Vous demandez quand cela se réalisera ? Cela viendra, mais seulement quand sera terminée la période d'isolement humain. Quel isolement ? Demandai-je. Il règne partout à l'heure actuelle, mais il n'est pas achevé et son terme n'est pas encore arrivé. Car à présent, chacun aspire à séparer sa personnalité des autres. Chacun veut goûter lui-même la plénitude de la vie. Cependant, loin d'atteindre le but, tous les efforts des hommes n'aboutissent qu'à un suicide total. Car, au lieu d'affirmer pleinement leur personnalité, ils tombent dans une solitude complète. En effet, en ce siècle, tous se sont fractionnés en unités. Chacun s'isole dans son trou, s'écarte des autres, se cache, lui et son bien, s'éloigne de ses semblables et les éloigne de lui. Il amasse de la richesse tout seul, se félicite de sa puissance, de son opulence. Il ignore, l'insensé, que plus il amasse, plus il s'enlise dans une impuissance fatale. Car il est bien habitué à ne compter que sur lui-même et s'est détaché de la collectivité. Il s'est accoutumé à ne pas croire à l'entraide, à son prochain, à l'humanité, et tremble seulement à l'idée de perdre sa fortune et les droits qu'elle lui confère. Partout de nos jours, l'esprit humain commence ridiculement à perdre de vue que la véritable garantie de l'individu consiste non dans son effort personnel isolé, mais dans la solidarité. Cet isolement terrible prendra certainement fin un jour. Tous comprendront à la fois combien leur séparation mutuelle était contraire à la nature. Tous s'étonneront d'être demeurés si longtemps dans les ténèbres sans voir la lumière. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Mais jusqu'alors, il faut garder l'étendard et, fût-on seul à agir, prêcher d'exemple et sortir de l'isolement pour se rapprocher de ses frères, même au risque de passer pour démons. Cela afin d'empêcher une grande idée de périr.
Alors ça peut paraître un peu indigeste comme ça, parce que c'est vrai que le discours il est très très empreint de religiosité, mais de manière générale, finalement c'est des questions qu'on se pose tous sous différents angles. C'est par exemple la question de l'utopie, c'est la question du bonheur individuel et collectif, la question de la faim, du mal et de toutes les merdes qui font que le monde nous donne parfois envie de vomir ou de se boucher les yeux et les oreilles. Des choses pas très très globe-globe, quoi. Mais en fait, Dostoïevski, il adore tout ça. Il adore trifouiller. Ben ouais, les tréfonds de nos consciences. Et il le retranscrit notamment à travers ses personnages et à travers deux des frères Karamazov, Dimitri et Ivan. Parce qu'en fait, le troisième, Alyosha, lui, il est pas torturé, il croit, il aime la vie, il chante la vie, il danse la vie. Mais Dimitri et Ivan sont ils ont un peu plus de soucis. Dimitri, c'est l'amoureux fougueux et Ivan, c'est le logico-rationnel torturé. Et je vous laisse écouter ce qui se passe dans sa tête quand il commence à trop réfléchir et qu'il a l'impression que la petite voix dans sa tête, c'est le diable.
Tais-toi ou je te tue. Me tuer? Non, il faut que je t'explique d'abord. Je suis venu pour m'offrir ce plaisir. Oh, que j'aime les rêves de mes jeunes amis, fougueux, assoiffés de vie. « Là vivent des gens nouveaux, disais-tu au printemps dernier, quand tu préparais à venir ici. Ils veulent tout détruire et retourner à l'anthropophagie. Les sots, ils ne m'ont pas consulté. À mon avis, il ne faut rien détruire, si ce n'est l'idée de Dieu dans l'esprit de l'homme. Voilà par où il faut commencer. Oh, les aveugles, ils ne comprennent rien. Une fois que l'humanité entière proférera l'athéisme, et je crois que cette époque, à l'instar des époques géologiques, arrivera à son heure, alors, d'elle-même, sans anthropophagie, l'ancienne conception du monde disparaîtra, et surtout l'ancienne morale. Les hommes s'uniront pour se retirer de la vie toutes les jouissances possibles, mais dans ce monde seulement. L'esprit humain s'élèvera jusqu'à un orgueil titanesque, et ce sera l'humanité déifiée. Triomphant sans cesse et sans limite de la nature par la science et l'énergie, l'homme par cela même éprouvera constamment une joie si intense qu'elle remplacera pour lui les espérances des joies célestes. Chacun saura qu'il est mortel, sans espoir de résurrection, et se résignera à la mort avec une fierté tranquille, comme un dieu. Par fierté, il s'abstiendra de murmurer contre la brièveté de la vie, et il aimera ses frères d'un amour désintéressé. L'amour ne procurera que des jouissances brèves, mais le sentiment même de sa brièveté en renforcera l'intensité, autant que jadis elle se disséminait dans les espérances d'un amour éternel outre-tombe. Et ainsi de suite, c'est charmant. Ivan se bouchait les oreilles, regardait à terre, tremblait de tout son corps. La voix poursuivit. La question consiste en ceci, songeait mon jeune penseur. Est-il possible que cette époque vienne jamais ? Dans l'affirmative, tout est décidé. L'humanité s'organisera définitivement. Mais comme, vu la bêtise invétérée de l'espèce humaine, cela ne sera peut-être pas encore réalisé dans 1000 ans. Il est permis à tout individu conscient de la vérité de régler sa vie comme il lui plaît, selon les principes nouveaux. Dans ce sens, tout lui est permis. Plus encore. Même si cette époque ne doit jamais arriver, comme Dieu et l'immortalité n'existent pas, il est permis à l'homme nouveau de devenir un homme-dieu, fût-il seul au monde à vivre ainsi. Il pourrait désormais, d'un cœur léger, s'affranchir des règles de la morale traditionnelle auxquelles l'homme était assujetti comme un esclave. Pour Dieu, il n'existe pas de loi. Partout où Dieu se trouve, il est à sa place. Partout où je me trouverai, ce sera la première place. Tout est permis. Un point, c'est tout.
Voilà, je sais pas si vous aussi, des fois, vous avez une petite voix dans votre tête qui vous parle de moralité, de choses comme ça. Et de manière générale, enfin, moi je trouve que le roman, il est assez hypnotisant par la finesse avec laquelle toutes ces émotions, sont retranscrites, en fait, c'est la conscience même des personnages. Pour ceux qui ont lu les carnets du sous-sol, ce sera pas une surprise, cette capacité de Dostoïevski, mais moi ça m'interpelle vraiment à chaque fois que je lis un de ses romans. Il a un don pour analyser ce qui se passe, les mouvements les plus imperceptibles de nos consciences, et le plus joli-joli, le pas joli-joli comme le plus noble, en fait. Et toute la complexité de ce qui s'agite en nous, que ce soit finalement sous le coup de la honte, de l'amour propre ou de l'amour tout court, et comment la honte, l'amour propre et l'amour tout court se mélangent pour faire un espèce de cocktail explosif où nos boussoles morales se retrouvent complètement désorientées. Alors, il n'y a pas de réponse, le roman ne donne pas de réponse, mais je pense que c'est un beau voyage à faire. C'est un voyage qui est long, on est d'accord, c'est un beau voyage, et ça permet peut-être de se reposer des questions qu'on ne s'était pas posées depuis longtemps, sans forcer et accepter peut-être qu'on n'aura pas de réponse. Voilà, si vous avez envie de prendre le temps de faire ça en ces temps troublés, eh bien, je vous y invite. C'est cool, Dostoïevski, ça fait du bien. Et si les frères Karamazov, ça vous paraît un peu trop long, ben, vous pouvez toujours lire les carnets du sous-sol. Voilà, je vais vous laisser avec une petite musique dont vous comprendrez l'origine.
Cracher sur vos ondes, c'est déjà fini. Je vous dis au revoir sur la carioca, parce que c'est une musique qu'elle aime bien. Déhanchez-vous bien, et à bientôt pour une prochaine émission.
Sais-tu danser la carioca? Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas.
Ce n'est pas un tango ou un cha-cha. Encore moins une bossa nova. Goûter à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça.
Youpi, dansons la carioca. C'est bien, fais-y tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir.
Maintenant que tu danses la carioca, ça tu t'en fiches bien de la polka. Tu n'en veux plus de la rumba, du la hoop et du cha-cha.
Tous les matins dès le lever, la carioca te fait bouger. Et quand tu danses, chaque petit pas te met en joie pour la journée.
Youpi, dansons la carioca. C'est bien, fais-les tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, fais-y tous comme moi. Oh oui, youpi, dansons la carioca. Tant pis s'il faut dire à tous.